Bienvenue dans Maïcha Bora, votre magazine de santé et bien-être sur Radio Kapi. Tati Mapoukou présente et coordonne ses nouveaux numéros. Tina Salam est à la supervision de cette émission. La prise de soins est assurée par Bob Landou. Quelles sont les causes des goîtes et comment se fait la prise en charge médicale de cette pathologie? C'est le sujet que nous traitons dans ce magazine de promotion des questions de santé et bien-être de Radio Kapi. Nous vous souhaitons une très bonne condition d'écoute de cette émission.
La santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tous les lundis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le mercredi à 13h30.
Vous écoutez la radio Kapi, la radio de la paix. Les goîtres est une maladie très répandue dans certaines régions de la RDC. Selon nos sources, près de 75% des femmes sont exposées à contracter cette maladie contre un faible pourcentage des hommes. Quelles sont les causes des goîtres et comment se fait sa prise en charge médicale et quels sont les moyens de prévention de cette pathologie? Vous aurez de plus amples informations sur ces questions dans ce nouveau numéro de Maïcha Bora qui débute avec le témoignage d'une femme, la cinquantaine révolue, qui a suivi l'intervention chirurgicale des goîtres. C'était au cours d'une campagne d'intervention chirurgicale organisée au centre féminin Maman Mobutu ici à Kinshasa. Cette dame s'est fait consulter pour un problème d'avortement spontané. C'est au cours de ces diagnostics que le personnel soignant lui a révélé que ces avortements spontanés étaient dus aux goîtres qui étaient en train de se développer sur son cou. Nous allons écouter son témoignage.
Oui, j'avais un problème là d'avortement spontané. Je suis allée dans une des hôpitaux de la place où on m'avait dit par un gynécologue c'est ça se faisait, mais j'ai eu cette... des avortements à cause du goitre qui était sur mon cou. Et moi-même, ça me gênait parce que je ne voulais même pas présenter le cou tout droit. Et le médecin savait que j'étais affectée par cette maladie. Et c'est alors qu'il me dira que non, c'est à cause de ça où il y a perturbation de tes hormones. Alors, j'étais censée les suivre les soins. J'ai suivi, vraiment j'ai perdu beaucoup d'argent, mais mes médecins traitants me disaient toujours que ce sont des multitudes de kystes qui n'avanceront pas, mais au fur et à mesure je voyais que la masse avançait et je me suis une fois là j'étais à la banque, la BCDC, et j'étais toujours couvert des écharpes au cou. Or ces gens là connaissaient bien que ceux qui ont cette maladie là se couvre toujours. Et je vis un monsieur qui est venu, bonjour madame, je lui dis bonjour, et vous travaillez ici? Oui, je travaille ici, mais pourquoi est-ce que je peux voir votre cou? Je me suis dit, oh, je ne vous connais pas, comment vous voulez connaître mon cou? Mais il m'a dit que non, il y a quelque chose que j'ai remarqué en vous, je ne sais pas si c'est par mes yeux ou par quels symptômes, et le monsieur a dit détecter que j'ai souffert du goitre. Alors quand j'ai enlevé, il me dira que voilà, nous sommes en train de soigner cette maladie chez nous, chez les Casifs. C'est pour ceux qui m'avaient invité la première fois. J'étais en train d'étudier, je n'avais pas de possibilité pour me faire scolariser et scolariser aussi les enfants. Je lui ai dit que prochainement, Dieu nous aidera pour que je puisse le faire. Et c'était, le moment était arrivé, j'ai vu les messieurs qui étaient à bord d'une moto, qui a dit au motocycliste d'arrêter quand il m'a vu pour me dire que madame, si tu peux passer chez les Casifs, c'est au 13e rue, nous allons faire notre 6e édition. Et moi, je lui dis présentement là, je n'ai pas d'argent. Il me dira que non, l'affiche c'est à 3000 francs. Et je lui ai promis que les mardis, comme c'était un lundi, les mardis, dès que j'aurai 3000 francs, je vais descendre là-bas. Il m'a donné l'adresse du Casif au 13e rue. C'est pour ça que je suis venue. Et nous étions nombreuses. On nous a fait quoi? On nous a fait une fiche, chacun présentait ses doléances. Et après, Après, donc, on nous dira, non, vous venez les samedis, nous allons vous positionner. Et quand nous sommes revenus, les autres croyaient que c'était vraiment... On peut commencer à faire la chirurgie sans connaître la santé de quelqu'un, c'est impossible. On nous a envoyé faire les examens dans les hôpitaux de la place où nous avons fait l'échographie thyroïde, nous avons fait les ECG, et nous avons fait encore quoi? Les T3, T4 et TSA. Et nous sommes allés, nous avons fait ces examens pour être fixés avant l'intervention. C'est ce qui a été fait. Après, on a remarqué, oui, réellement, moi j'ai souffert du goitre et vous payez quelque chose là, vous savez que la santé aussi n'a pas de prix et un médecin ne peut pas aussi opérer sans avoir le matériel de l'intervention. C'est normal que nous avons payé un coût là un peu réduit par rapport aux hôpitaux de la place qu'on nous demandait, $2,650 que nous n'avions pas.
Merci à cette dame qui a accepté de donner son témoignage au micro de Maïcha Boura. Le goitre, c'est l'augmentation diffuse des volumes du corps thyroïde. C'est un agrandissement diffus des volumes de la glande thyroïde entraînant par la même occasion l'augmentation des volumes du cou d'après Dr. Chipon Patoni, médecin généraliste. Du point de vue anatomique, la thyroïde est une glande située à la base du cou qui mesure environ 6 cm de large et dont le poids n'excède pas 30 grammes.
Le goitre, c'est l'augmentation du volume de la glande thyroïde, mais on peut aussi assister à l'augmentation du volume du cou. Tout dépend de l'importance de ces volumes-là. Quand la glande prend trop de volume, on peut assister aussi à cette augmentation-là du volume du cou.
Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs c'est quoi la glande thyroïde? Elle est située où exactement et quel est son rôle dans l'organisme?
Oui, bon, la glande thyroïde est située dans la partie antérieure, plus précisément du cou. Là, je parle un peu pour que tout le monde puisse comprendre. Et il joue un rôle plus précisément dans la synthèse des hormones qu'on appelle les hormones thyroïdiennes. Là, nous parlons des T3, des T4.
D'après l'OMS, 800 millions de personnes sont touchées par les goitres à travers le monde. On distingue quatre formes de goitres, à savoir les goitres tumorales, la tumeur peut être bénigne ou maligne, les goitres inflammatoires, les goitres vasculaires de l'hyperthyroïdie dû à un trouble de la synthèse des hormones thyroïdiennes et les goitres simples. Ces derniers types de goitres correspondent à une augmentation isolée des volumes de la glande centimère sans inflammation et sans trouble de la sécrétion thyroïdienne. Suivant les explications de Dr. Chipon Patoni, nous rappelons qu'il est médecin généraliste.
Dans les formes, il y a des formes des goitres hypothyroïdiens, il y a la forme éthyroïdien aussi et la forme hyperthyroïdienne. Mais généralement, les cas que nous préférons, nous souhaitons, qui sont faciles aussi, qui sont prenables aussi facilement, ce sont des formes éthyroïdiennes. Là, généralement, nous y allons et quand nous y travaillons, nous y mettons. En tout cas, il n'y a même pas de problème. Même les problèmes des récidives, là, c'est vraiment minimisable. Donc, quand c'est bien pris, en tout cas, les problèmes ne se posent pas.
Merci beaucoup pour ces renseignements, docteur. Est-ce qu'on peut avoir une idée? On peut avoir une idée sur, lorsque vous réalisez des campagnes de terrain, sur le cas des succès d'intervention que vous réalisez sur terrain?
Là, je dirais, par rapport au cas aux formes thyroïdiennes, les problèmes ne se posent pas. Même les cas hypothyroïdiens, généralement, nous mettons le malade sous les médicaments et les malades, ces malades-là se rétablissent sans problème. Même pour les formes hyperthyroïdiennes. En tout cas, je dirais que ça existe, comme on ne peut pas quand même dire qu'il n'y a pas des... donc, nous réussissons pratiquement tous les cas, mais on fait de notre mieux. En tout cas, ça, le malade peut quand même témoigner. Et je dirais que c'est vraiment négligeable.
Les causes de l'augmentation des volumes de la thyroïde sont multiples. Les spécialistes citent par exemple les cas de la carence chronique en iode, les antécédents familiaux, les tabacs, les stress permanents et la consommation de certains aliments font aussi partie des facteurs de risque. Nous allons une fois de plus écouter les explications du Dr. Chipon Patoni. Il est médecin généraliste et membre de l'ONG CASIF.
Généralement, c'est en cas de déficit en iode. Là, nous parlons des carences alimentaires. Et l'iode qui est un constituant qui est obligatoire pour la synthèse de ces hormones-là au niveau de la glande thyroïde, Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres éléments ou d'autres facteurs qui peuvent aussi favoriser la survenue de cette maladie-là qu'on appelle le goitre. Il y a par exemple, là, il y a le tabac, par exemple, qui empêche la captation des hormones, de l'iode et qui entraîne une forme de carence qui peut aussi expliquer cet état. Et à part ça, il y a, et je parlerai des synthèses imparfaites des hormones thyroïdiennes ou certaines maladies thyroïdiennes qui peuvent aussi expliquer la survenue de cette pathologie qu'on appelle le goitre. Oui, selon les documents qu'on a eu à parcourir et les études, on a constaté qu'il y a aussi une influence héréditaire. Donc, c'est-à-dire la famille peut aussi jouer un rôle dans la survenue aussi de cette maladie.
Et dans l'alimentation, à part la carence en iode, est-ce qu'il y a d'autres produits, d'autres aliments qui peuvent déclencher le goitre? J'ai lu dans la littérature, par exemple, la consommation des choux, le goitre.
Oui, bon, là, ce sont ce que nous appelons les substances goitrogènes, c'est-à-dire des substances qui favorisent la survenue de la maladie, qui entraînent une forme de carence. Et parmi ces substances, effectivement, il y a le manioc, il y a peut-être les choux, il y a peut-être les arachides, par exemple. Mais attention, parce que là, quand on ne fait pas attention, on risque d'interdire aux gens, de dire aux gens, ne pas manger et tout ça, là. Non, c'est pas ça. Ça veut dire, avec la cuisson, par exemple, on peut diminuer cette toxicité et puis la personne peut facilement consommer et tout ça, là, parce que sinon, nous risquons de créer des problèmes dans la société.
Il faut savoir que la carence en sel iodé est très profonde dans certaines provinces de la RDC. Selon Kamanda Bichimini Augustin, chef de division des normalisations, coordonnateur national de la lutte contre les carences en micronutriments au programme national de nutrition Pronanit en sigle. C'est depuis 1993 que le gouvernement congolais a imposé aux opérateurs économiques d'importer les sels iodés, mais sur les marchés, on retrouve aussi les sels non iodés, issus généralement de la production locale.
L'accès à l'iode a toujours posé un problème, parce que l'iode comme tel, on l'a, notre sol étant pas riche, nous recommandons à la population de consommer les aliments marins, donc le poisson, les crustacés, etc., qui doivent consommer pour avoir de l'iode dans leur corps. Mais les études menées, comme nous avions parlé autrefois, avaient montré que la carence était très profonde. Et c'est comme ça que, en 93 octobre, au mois d'octobre, nous avons signé un premier arrêté interministériel autorisant les opérateurs économiques du secteur sel d'amener le sel iodé dans le pays. Et le sel est iodé dans le pays. Le sel est iodé. Mais il y a des poches de production locale du sel à partir du sel GEM. Et ce sel qui n'est pas iodé est consommé par une grande population quand nous prenons tous les Katanga dans l'ancienne configuration. Et même dans la configuration actuelle, chaque province provenant du démembrement du Katanga a la production du sel non iodé, donc l'exportation du sel GEM. Il y a aussi d'autres provinces comme la Lomami, du côté de Ngandajika, on produit aussi ce sel-là qui n'est pas un sel GEM, qui n'est pas iodé. Donc, mais l'État a déjà pris des mesures pour que le sel soit iodé sur tous les territoires. Les opérateurs économiques sont informés, sensibilisés. Mais vous savez qu'un commerçant, c'est celui qui achète ce qui lui rapporte beaucoup plus d'argent. C'est comme ça que nous retrouvons même aux portes d'entrée comme Kasumbalesa, les ports de Matadi, les analyses qui sont faites par l'OCC montrent qu'il y a encore des commerçants verrés qui apportent du sel qui n'est pas iodé. Et même les autres industriels du pays, pour le nettoyage de leur tuyauterie, ils importent du sel non iodé, mais leurs agents volent ce sel-là et l'amènent dans les ménages. Et le sel iodé est partagé entre le non iodé plutôt, comme iodé, ce sel est partagé entre plusieurs membres de la famille. Mon épouse peut demander le sel à sa voisine, ainsi de suite. Et si ce sel n'est pas iodé, nous allons le consommer, parce qu'il est difficile de le détecter à l'œil nu. Il faut avoir un kit pour détecter. C'est vrai que sur l'emballage, on peut écrire que ce sel est iodé à l'iodate de potassium, qui est la molécule recommandée au pays. Mais les grossistes et les importateurs, ils demandent aux grossistes de ramener les sacs avec inscription sel iodé dans leur...
Marqué sur les sacs.
Oui, marqué sur les sacs. Indiqué sur les sacs. On a indiqué sur le sac que le sel est iodé à l'iodate de potassium. Mais nous avons l'obligation de vérifier que réellement ce sel est iodé ou pas, parce que nous avons un kit qui vérifie cela. Et le CC fait ce travail à la frontière. Mais il arrive que ce sel se retrouve sur le marché, comme je l'ai dit, par les industriels qui importent le sel qui n'est pas iodé, et les agents mettent ça sur le marché. La production du sel GM dans les Katanga et dans la Lomami, tout cela, ça contribue à l'épanouissement, s'il faut dire ainsi, de l'affection dans la communauté. Nous savons que dans nos marchés, le sel est exposé à l'air libre, au soleil, et le l'iode qui est volatile va quitter les cristaux et vont être volatilisés. Il y a aussi notre mode de conservation qui est traditionnel, avec les ménages mettent l'iode, plutôt le sel qui est iodé, dans un bocal qui est exposé au-dessus du foyer. Donc cette chaleur-là va faire dégager l'iode qui est contenu dans le sel. Donc on doit bien conserver ce sel dans un emballage en plastique, garder dans un coin pour éviter même l'humidité. Parce que s'il y a une forte humidité, le sel va absorber de l'eau. Le sel est hygroscopique, comme on l'appelle, il va absorber de l'eau et cette eau va enlever l'iode qui est contenu dans le sel. Et la teneur qu'on aura, elle sera très faible, ne sera pas couvrir les besoins de la population ou des ménages.
Monsieur Kamandam, est-ce qu'en termes d'aliments, il y a d'autres aliments qui peuvent aider à compenser à la carence en iode?
Oui, il y a des aliments qui peuvent compenser cette carence en iode. Vu que je vois sur le marché, nous avons des conserves. Dans les conserves, on met déjà le sel qui est iodé. Mais tout le monde n'a pas accès à cet aliment en boîte, en conserve. Il y a des aliments marins, donc tout ce qui est dans l'eau,
les poissons,
les crustacés, les mollusques pour ceux qui en mangent. Bon, tout ce qui est dans l'eau retient dans la chair l'iode. Parce que quand il pleut, l'iode vient sur la terre et avec l'écoulement de l'eau, tout va dans la source, dans la rivière, dans les grandes étendues de eaux. Alors les animaux qui sont dedans fixent l'iode dans leur chair. Et spécialement les crustacés sont des grands fixateurs de l'iode dans leur chair. C'est donc les cosa-cosa, s'il faut parler en ces termes-là. Et tous les autres poissons qui sont dans l'eau ont dans leur chair de l'iode. Bon, peut-être vous allez me demander ce que les chinchards ont aussi de l'iode dans leur chair. C'est probable, parce que tout dépend de la durée de conservation. Vous savez que quand on a conservé le poisson au frais, dans les pays où nous avons aujourd'hui, on a l'électricité, vous êtes venu là, il n'y a pas d'électricité. Si nous avons un congélateur où nous avons mis des aliments frais, au bout de 2 heures, 3 heures, il y aura des congèles de ces produits. Et quand on va relancer, ce qui était sorti du corps ne va pas rentrer dans ce corps de poisson. Donc c'est ça que nous déplorons. Alors il faudra que les gouvernements maintiennent l'électricité permanente sur toute l'étendue où la SNEL a la capacité d'arroser les besoins de la population en électricité.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Vous écoutez Radio Okapi qui vous propose Maïcha Bora, votre magazine de promotion des questions de santé et bien-être, qui s'intéresse aujourd'hui aux facteurs de risque des goitres et comment se fait la prise en charge médicale de cette pathologie. Les goitres est une maladie stigmatisante en RDC. Les personnes touchées par cette pathologie sont souvent exposées au mépris de l'entourage. Nous allons une fois de plus donner la parole à la dame qui a témoigné au début de notre émission. Selon elle, ce n'est pas du tout facile de faire face à la perception qu'a la communauté sur cette maladie.
Moi, on ne me regardait pas deux fois. Quand quelqu'un fixe son regard, il ne va plus fixer la deuxième fois. Parce qu'on te trouve comme si tu es sale. Et il y en a d'autres qui nous taxaient des sorcières. Hein? Donc nous avons eu vraiment beaucoup de malaise avec cette maladie-là. Et on était toujours... Les symptômes qui s'apprésentent tout de suite, c'était la colérie. On était très colérique. Et il y a eu des étouffements possibles. Peut-être que vous verrez aussi des crampes au niveau de vos articulations, tout ça. Nous, on n'était pas fixés. Je n'étais pas fixée. C'était dit à quoi, tout ça.
Vous vous rappelez des médicaments que vous avez ingurgités avant de venir, de subir l'intervention chirurgicale, parce que vous avez dit que vous êtes allé d'un hôpital à un autre?
Oui, il y a eu les Ngok 11, il y a eu des médicaments là qu'on a acheté, les paquets à $20 et c'est dans des hôpitaux spéciaux, hein, dans des pharmacies là, qu'on allait procurer en ville, Ngok 11.
Et qu'est-ce qu'on vous disait en prenant ces médicaments, en achetant ces médicaments? Vous disiez quoi, que ça allait éliminer ces cellules dans la gorge?
On nous disait que les cellules ne vont pas pousser, ça va disparaître, tout ça. J'ai oublié même le nom d'un autre médicament là que j'avais commencé au début. Mais ça me coûtait $20 et dans l'époque, $20 c'est beaucoup d'argent. En tant que fonctionnaire, vraiment ça ne suffisait pas.
Et c'est pendant beaucoup d'années que vous êtes allé d'un centre de santé à un autre?
Oui, c'est pendant beaucoup d'années. Je sais que c'est vers 1998, quelque chose comme ça, que les médecins m'avaient dit que mes hormones étaient troublées. Mmh. Et il y a des fois, vous avez des cycles mensuels de 2 semaines, 3 semaines, et ça coule avec des boules, des gros cailloux vraiment que vous ne pouvez pas penser. Et la santé vraiment n'était pas bonne. Vous verrez que vraiment, non, vous n'êtes pas à l'aise. Comme si on vous soutirait quelque chose de vos oncles. Donc, vous n'êtes pas à l'aise. Vous pouvez faire 3 semaines avec ça. Et c'est beaucoup de peine.
Est-ce qu'au niveau du ménage, ça va déranger l'harmonie conjugale?
Non, ça va déranger parce que, vous voyez que... Donc, vous n'avez qu'un seul enfant, tout ça. Vous êtes devenu objet d'injure. Et quand j'avais aussi ce genre d'avortements spontanés, il y a l'une de ma belle-sœur qui est venue elle a appelé ses cousines pour qu'elles viennent me sortir du ménage. Parce que les femmes qui ont toujours eu des avortements sont objet de la mort et tout ça. Et donc, vraiment, c'était un peu pénible pour moi.
Les personnes souffrant de goitre éprouvent beaucoup de difficultés au sein de la société, ajoute Serge Kasongo, promoteur du centre d'accueil et des soins intégraux des familles en Afrique, CASIF en sigle, qui organise régulièrement des campagnes d'intervention chirurgicale à moindre frais à l'intention des personnes atteintes de goitre ici à Kinshasa, au centre féminin Maman Mobutu.
Il y a beaucoup de gens qu'on traitait comme des sorciers. Vous trouvez une maman qui est en train de vendre. Parfois, les gens refusent de lui acheter des histoires parce qu'ils croient qu'il est sorcière. Ou bien disent qu'il avait avalé les Misuniabatu. Et elle croyait à cela. Et c'est comme ça que nous avons dit tout d'abord, nous commençons à cela. Et vous savez, quelqu'un qui souffre de goitre, s'ils sont en train de me suivre, ils peuvent le témoigner. Quand c'est le médecin qu'il traverse quelqu'un comme ça, il doit se tourner pour les regarder. Et il y a parfois des mamans qui portent, qui couvrent leur cou avec des écharpes, bien qu'il ne faut pas froid, il fait chaud, mais ils sont en train de couvrir leur cou avec des...
Pour cacher les goitres.
Oui, parfois ils essaient un peu de... de se courber et sous forme d'imbossure. Donc, mais moi, je vois et j'ai vraiment ça me fait mal au cœur. Je les arrête, parfois je les interpelle et je me présente. Voilà ce que j'ai fait, tout ça, et ils viennent. Même parfois nos malades eux-mêmes, ce sont peut-être qui me commencent maintenant à envoyer leurs voilà. Voilà, il y a une association des médecins qui nous aident, là-bas, tout ça, nous sommes au centre de Marie-Antoinette, et ainsi de suite. Et ils commencent à venir eux-mêmes. Et même si ils croient que non, quand ton père, tu vas mourir, tout ça. Mais depuis que nous avons commencé, nous avons déjà opéré plus de 3000 cas, aucun cas de décès.
Les tumeurs de la thyroïde ou le goitre prennent plusieurs formes, comme nous l'avions évoqué précédemment. 75% des patients sont des femmes qui consultent pour l'augmentation des volumes de la thyroïde. À la palpation du cou, les médecins perçoivent un ou plusieurs nodules. La thérapie dépend généralement du diagnostic posé par les personnels soignants. Selon Dr Chipan Patoni, nous rappelons qu'il est médecin généraliste et membre de l'ONG CASIF.
Généralement, nous faisons c'est une supplémentation alimentaire en iode dans les zones qui sont déficitaires. Qu'on peut donner sous forme de sel iodé. Ça, c'est la politique du pays. Mmh. Mais à part ça...
Est-ce que je peux avoir une idée sur les zones endémiques, les zones qui sont concernées par cette carence en iode ici en RDC?
Généralement, c'est plus quand nous sommes vers le côté nord et tout ça là, Équateur et tout ça là. C'est là où nous nous rencontrons beaucoup de cas de ce genre-là. Mais il n'y a pas que ça. Ici, par exemple, nous donnons aussi l'iode aussi, donné sous forme de ce que nous appelons l'ugol. Mmh. Et il n'y a pas que ça. Pour la forme hyperthyroïdienne, là, nous allons, en dehors de l'iode, nous donnons aussi des médicaments antithyroïdiens. On peut donner, par exemple, l'estrimazole qu'on peut donner, et tout ça là. Et à part ça, il y a l'ablation chirurgicale aussi, qu'on peut passer aussi par l'ablation chirurgicale pour répondre à ces problèmes-là. Mais hormis cela, il y a aussi d'autres cas qui sont pris, par exemple, au niveau des cliniques universitaires. C'est là où nous faisons intervenir l'emploi de l'iode radioactif avec l'iode 131. Ça, c'est un peu la médecine nucléaire. Des cas qui sortent un peu de l'ordinaire, les cas qui ne sont pas éthyroïdiens sont généralement référés aux cliniques universitaires pour la prise en charge.
Je voulais comprendre les cas qui sont éthyroïdiens, qu'est-ce que cela veut dire en détail?
Éthyroïdien, ça veut dire normal. Ça veut dire, il n'y a pas quand on fait les bilans, par exemple, les hormones et tout ça là. Nous constatons que les taux des hormones sont... Il y a une stabilité pour le côté hormonal. Mais par contre, pour les cas hyperthyroïdiens, là, il y a l'augmentation. On va voir aussi les hormones à des taux vraiment très élevés qui écartent, qui s'éloignent un peu des valeurs qui sont dans les limites normales, qu'on nous donne dans les limites normales. Et à part ça, il y a d'autres signes cliniques qui nous orientent à poser aussi ce diagnostic-là.
C'est par ici que nous clôturons le magazine Maïcha Bora consacré aux facteurs de risque des goitres et sur comment se fait sa prise en charge médicale. Tati Mapoukou a coordonné et présenté cette émission. Tina Salama a supervisé ce numéro. Bob Lando a assuré la prise de son. Le rendez-vous est pris dans une semaine pour un nouveau numéro agréable et conditions d'écoute à toutes et à tous.